7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, c'est le Festival des Papilles. Bonjour, chef Anto.
Bonjour, Emmanuel.
Vous êtes la coordinatrice, en fait, du Festival We Eat Africa, qui se tiendra le 7 juillet prochain à Paris. La cuisine africaine à l'honneur. Et ça tombe bien, parce que la cuisine africaine est en pleine ébullition. Elle peut créer des emplois. La preuve, avec de jeunes entrepreneurs dans le studio, qui misent sur des produits. Alors, des produits que nous, on qualifierait en France d'épicerie fine, c'est-à-dire des jus, des sauces à tartiner pour un apéro entre amis, des confitures, du manioc ou de la patate douce très transformée. On va en discuter avec Marie-Clarisse Bondia. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous chez 7 milliards de voisins.
Enchantée.
Vous avez grandi à Brazzaville et vous avez créé la marque Chikwanga. Ce sont des produits à base de manioc, produits d'ailleurs au Ghana, transformés en France. On va en discuter. Avec vous également, Oumar Cissé. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez grandi en Côte d'Ivoire. Vous êtes venu en France, pas du tout pour la cuisine.
Non, pas du tout.
Pour faire des études et pour être ingénieur ferroviaire. Vous avez été cadre dans des multinationales.
Exactement.
Et puis, vous êtes tombé dans la marmite et vous avez créé la marque Panamaco. Des jus africains avec la touche Panamaco. On vous en dira plus tout à l'heure. Mais en gros, c'est du bissap associé avec de la pomme. Et ce sont surtout des histoires de rencontres pour vous tous. Hein, vous allez nous en parler. Et de métissage. Nathalie Sherman va nous rejoindre. Elle a créé la marque Joe & Avrels. Clin d'œil au Dalton. On sera également en ligne à Libreville au Gabon avec Cédric Bécalé pour ses chips crac-croc à base de tubercules africaines. Et quant à vous, les voisins et les voisines, est-ce que vous croyez en la révolution des produits africains? Ces produits africains peuvent-ils être adaptés au mode de vie d'aujourd'hui? Comment allier tradition et modernité? Appelez-nous au 33 1 84 22 71 71 si vous consommez à l'heure actuelle de nouveaux produits transformés, mais 100% africains. Bref, des produits que vous ne trouviez pas tels quels dans les plats de vos mamans. Appelez-nous, surtout on a envie d'entendre vos témoignages. 33 1 84 22 71 71 et bien sûr, vous pouvez questionner nos entrepreneurs dans le studio sur WhatsApp ou nous laisser des messages.
C'est un village mondial, donc on est tous des voisins, tous ensemble.
7 milliards de voisins, mais entre nous là, entre les voisins. Hein,
7 milliards de voisins. C'est vous qui faites l'émission.
Chef Anto, ces produits dont on parle, donc longue conservation hein, en général, ça correspond à un vrai besoin dans les diasporas africaines aussi et sur le continent où c'est vraiment des produits qui sont à la base créés pour les diasporas africaines?
Je pense que ces produits répondent à un besoin, aussi bien pour les diasporas, mais aussi sur le continent, parce que ce sont des produits qui créent une nouvelle économie. Il ne faut pas oublier. Et puis, les temps changent et on essaye. En fait, je pense que ce sont des produits qui nous permettent de nous adapter aussi à nos modes de vie et de nous permettre de consommer local et de faire travailler les productions locales avec les produits que nous avons.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous êtes, à part vous, Anto, parce que vous êtes chef de formation,
oui.
Vous avez fait une grande école de cuisine à Paris, mais sinon, vous êtes presque tous tombés dans la cuisine par hasard, non, Oumar Cissé?
Moi, c'est complètement par hasard. C'est au fil de rencontres et je me suis rendu compte qu'il y avait un besoin de gens qui souhaitaient connaître la cuisine africaine, mais qui ne trouvaient pas et qui posaient toujours la même question. Où est-ce que je peux en acheter? À part la seule réponse, dans l'épicier du quartier. Et s'ils n'étaient pas dans le bon quartier, dans la bonne région, ben, ils n'en avaient pas, donc ils ne savaient pas.
Ouais.
Et donc,
Là, vous parlez d'Européens qui avaient peut-être voyagé en Afrique, mais qui ne connaissaient pas plus que ça la cuisine africaine.
Exactement. Hein.
Et pour vous, par exemple, Marie-Clarisse Bondia, vous non plus, vous n'aviez pas spécifiquement d'histoire personnelle avec la cuisine africaine?
L'histoire personnelle, enfin ce que je pourrais dire, nous en Afrique, en fait, les filles sont toujours à la cuisine. Hein. Donc moi, j'ai grandi en Afrique jusqu'au moins l'âge de 30 ans. Et je suis issue d'une grande famille, donc la cuisine...
Donc
bah,
des
je
tables énormes avec beaucoup de plats.
Exactement, voilà, avec des grosses marmites et tout par rapport à ma famille. Mais je n'étais pas destinée effectivement à faire de la cuisine.
Oui, on vous avait destinée à l'expertise comptable.
Et c'est ça, voilà, l'expertise comptable. Moi, je voulais faire le droit, mais c'est mes parents qui m'ont poussée à faire la comptabilité. Et donc, j'ai travaillé aussi là-dedans en tant que comptable dans les administrations. ici en France, dans le privé, le public et le monde associatif.
Et alors pourquoi ensuite vous lancer dans la fabrication de produits culinaires alors que bon, vous n'aviez pas spécialement ni été programmé pour travailler dans la cuisine africaine, ni véritablement, vous n'étiez pas programmé non plus à cuisiner.
Non plus. Je suis tombée là-dedans en fait par des constats. Ici en France, c'est-à-dire qu'il y a ce que j'ai constaté, les gens partent. On vient tous d'ailleurs, d'Afrique et tout, mais les gens partent avec leur histoire. Et en ce qui concerne le continent africain, on part aussi avec notre histoire culinaire, en fait. On a beau manger tout ce qui est ici, moi, je suis ravie d'avoir plein d'amis européens, de manger européen, de tester des recettes et tout. Mais il y a toujours dans un petit coin de ma tête où j'ai envie de manger la cuisine de maman. Mais seulement les produits que je trouvais ici étaient complètement... un peu dénaturalisé par rapport à la conservation. Il y avait un problème.
Oui. Par exemple, parce que vous êtes sur le manioc, là,
moi,
maintenant.
Je suis sur le manioc.
C'est quoi le problème du manioc quand
le
on
problème
est
du manioc,
dans la diaspora, qu'on achète du manioc en Europe?
Voilà, plus précisement, la chikwanga. Hein. Je vais parler de la chikwanga, enfin, que chez moi au Congo, on appelle par le kwanga.
Ouais. Donc, c'est ce manioc qui est cuit, enveloppé dans les feuilles de bananier.
Enveloppé dans les feuilles de bananier,
à l'eau
puis
bouillante.
Cuit à l'eau ou à la vapeur, voilà, qui accompagne les sauces, les grillades, voilà. Moi, je n'ai pas souvenir, en tout cas chez moi au Congo, d'avoir mangé ce produit avec une odeur qui répugnait les gens. Voilà. Et donc, c'est ce que j'ai constaté. Et mes enfants n'en mangeaient pas. Mes enfants qui sont ici, ça posait un problème à table.
Ici, c'est-à-dire en Europe.
En Europe. Ouais. Et quand j'invitais, moi j'adore cuisiner, hein, comme je vous ai dit, et donc mes amis aussi aimaient venir à ma table et tout, ils mangeaient de tout ce que je leur présentais, mais ce produit-là spécialement posait un problème. Et quand j'ai eu le licenciement dans la société où je travaillais, j'ai dit je veux travailler pour moi-même, mais quoi ? Et c'est parti.
Ah ben, la cuisine.
Et c'est parti dans la cuisine, voilà.
Et Nathalie Sherman, alors qui vient de nous rejoindre. Bonjour à vous, Nathalie Sherman.
Bonjour.
Vous êtes en train de reprendre votre souffle. Voilà, oui. Vous avez créé Joe et Avrels, Joe and Ravrels. Mm-hmm. Donc, il y a plein de produits que vous venez d'étaler d'ailleurs sur la table dans le studio. Ça va être très dur de résister jusqu'à la fin de l'émission. Il y a des confitures, il y a des pâtes à tartiner. Alors ça, pâtes à tartiner, franchement pas un concept africain à la base.
Si
on dit pâte à tartiner,
non,
on pense
pas,
plutôt
pas
à
vraiment,
l'Italie.
Voilà, oui, c'est des pâtes, en fait, des crèmes. C'est vrai que c'est pas africain, mais c'est ça le mélange. En fait, j'ai voulu travailler les produits typiquement africains pour vraiment.
Oui, là, à l'intérieur, c'est 100% africain.
Là, c'est que du africain. Ça, c'est une prune sauvage qui pousse essentiellement en Afrique centrale.
Ouais, qu'on appelle ça.
Donc, à Tanga.
Donc, on appelle crème de safou. Suivant le pays. Au Gabon, on appelle ça à Tanga.
Qu'est-ce que c'est Ah oui, qu'est-ce que c'est que ce safou exactement? Une prune sauvage,
alors,
mais
c'est une prune.
Bon, qui ressemble un peu à l'avocat. Hein.
Oui, exactement.
Voilà, oui. C'est de la famille de l'avocat. Quand vous l'ouvrez, en fait, le noyau, c'est vraiment comme le noyau de l'avocat, sauf pour le safou, c'est un, comment dire, c'est comme un cerveau, en fait. C'est des,
comme des rognes.
Voilà, oui, des, voilà. Bon, les filles, elles appellent ça le cerveau.
Donc ensuite, c'est broyé.
Voilà, oui, c'est en fait.
La pulpe, parce que le noyau, on ne le mange pas, mais elle récupère la pulpe. Et c'est avec cette pulpe-là qui a un petit goût d'avocat, mais un peu acidulé, très acidulé.
C'est ça, donc c'est pas sucré comme un fruit, on est bien d'accord.
C'est quelque chose d'acidulé et âpre en bouche, que l'on mange bouilli en Afrique ou grillé. Donc, en général, c'est pas au goût, comment dire, occidentaux. Ils
pourquoi
aiment pas trop.
Quelqu'un qui n'a pas l'habitude a du mal à manger ça.
Nous, on a grandi, voilà, on a grandi avec. Donc, du coup, c'est quelque part, comme je dis aujourd'hui, la diaspora, ils se retrouvent, c'est quelque part leur Madeleine de Proust. Donc, le safou qui a été capturé en petit pot. Et puis, ça facilite. Là, c'est quelque chose qu'on peut présenter vraiment à table quand on veut faire un truc.
Il change de goût ou pas depuis que vous l'avez capturé?
Non, il n'a pas changé de goût. C'est juste, en fait, c'est préparé. C'est donné, en fait, enlever ce côté âpre et trop acidulé du fruit. Donc, plus facile à manger pour le palais occidental.
Alors, vous ne faites pas que du safou, ceci dit. Il y a aussi des confitures, il y a du sakasaka.
Je fais du sakasaka. Ça, c'est un plat national du Congo. Vous ne pouvez pas aller au Congo sans avoir mangé le sakasaka.
Non,
en fait, ça, c'est un plat de fête. Quand on vous invite, vraiment, il y a le sakasaka, il y a le trois pièces, comment dire. Trois pièces qui s'apparentent un peu au mafé, sauf que nous, on met des herbes dedans, au lieu de la carotte ou du chou. Et en fait, moi, l'idée, c'est vraiment de prendre un plat national de chaque pays et le capturer en petit.
Et du coup, qui peut se manger finalement, non pas en plat, hein, mais finalement beaucoup plus en, sur le pouce, comme on
nous,
dit.
Nous, on est sur, comment dire, je suis partie vraiment sur, comment dire, l'apéritif. Ceci dit, cette crème, c'est le safou, en fait, l'avantage de cette prune-là, c'est une prune qui se marie très bien avec toutes les viandes, aussi blanches, rouges ou le poisson. Donc, vous pouvez utiliser ça comme un condiment, comme vous utiliserez une moutarde sur une viande grillée, un poisson grillé, pour agrémenter un peu et pour voyager.
Ça veut dire que les diasporas africaines découvrent d'autres utilisations d'un produit qu'ils ont bien connu, d'une recette qu'ils ont bien connue.
Une recette vraiment inédite, comme je dis.
Les gens sont d'accord pour être bousculés comme ça dans leur Madeleine de Proust, comme vous dites.
En fait, ils sont vraiment surpris. J'ai de tout. Quand j'ai des salons, il y a des gens qui viennent. Ah non, mais c'est pas comme ça qu'on mange ça au pays. Donc ça, c'est les gens qui sont fermés, qui veulent pas. Voilà, oui.
C'est... Donc en cuisine aussi, il y a bien ça, les conservateurs.
Ah oui, oui, si, on veut, voilà, oui, on veut conserver. Mais quelque part, moi, comme je dis, vraiment, d'où est partie l'idée de mettre cette crème-là en pot. Le safou, en fait, il faut savoir que c'est une prune périssable. Donc avec le soleil d'Afrique, les mamans à qui vont vendre, voilà, le matin elles partent, le soir c'est cuit, c'est pourri.
Et c'est ce qui vous rassemble tous là, c'est que vous produisez des recettes à la base relativement traditionnelles, mais prêtes à l'emploi et surtout prêtes à être conservées. C'est votre cas, Oumar Cissé. Alors vous êtes quand même lancé dans un projet un peu gonflé, parce que là c'est pas 100% africain, c'est 100% métissé, mais vous assumez totalement.
J'assume totalement.
Donc je le montre à la caméra pour ceux qui nous regardent en vidéo, en direct.
Personnellement, je suis né en Côte d'Ivoire, mes parents sont sénégalais, donc j'ai toujours
Donc c'est
vécu...
pas du vin, c'est rouge,
c'est pas du vin. C'est une petite bouteille, ça a l'air d'une petite bouteille de vin, mais c'est pas du vin, c'est un
Coca,
peu trompeur.
Made in Africa.
Et le métissage, en fait, ça a toujours fait partie de ma culture, donc en fait, on a toujours voyagé dans la famille, j'ai des oncles et tantes un peu partout.
La couleur rouge, donc, voilà. Là, c'est quoi
Alors, du coup, c'est la couleur de l'hibiscus, du bissap, vraiment, qui colore un peu la boisson, et c'est la couleur naturelle, donc je précise toujours aux gens, c'est bien la couleur naturelle, c'est sans colorant, parce que souvent certains pensent qu'il y a des colorants dans la boisson.
Oui. Et mélangé avec
de la pomme. Voilà.
Pourquoi? Donc du jus de pomme?
C'est ça, du jus de pomme. En fait, c'est un jus de pomme qui est pressé et qui est associé à la boisson.
Et pourquoi avec de la pomme?
Alors, pourquoi avec la pomme? En fait, l'idée, c'était de... Quand on avait fait tester le bissap à différentes personnes, il nous remontait toujours deux...
Vous voulez dire à des gens qui n'étaient ni sénégalais, exactement. Ni burkinabés,
C'est ça, exactement. Il remontait toujours deux problèmes. Un problème sur le sucre de la boisson, le niveau de sucre de la boisson, et un deuxième problème sur l'âpreté en bouche.
Ouais. Et si on diminue le sucre, c'est l'âpreté qui remonte dans le bissap. C'est pour ça aussi.
Et donc, nous, c'était de dire comment avoir une boisson qui est fortement dosée en hibiscus, mais qui n'a pas d'âpreté et qui a un taux de sucre bas. Donc, challenge, c'était un peu compliqué. Et donc, ce qu'on a fait, c'était l'idée de tester avec de la pomme. Donc, on est allé voir des producteurs de pommes en France. Donc, on est parti.
Qui vous ont regardé quand même avec des yeux ronds ou parce qu'ils ne connaissaient pas le bissap
C'est très drôle parce qu'en fait, beaucoup de producteurs sont à la fois sur du traditionnel, parce que la pomme, c'est quand même dans l'héritage français, on est sur quelque chose de très traditionnel. Bon, en même temps, ils ont un regard un peu vers de l'innovation. Et donc, en fait, au final, on s'est fait bien recevoir un peu partout. Hein. On est parti en Alsace, en Savoie, en Normandie, pour ne pas fâcher les Normands, parce que la pomme en Normand. Et aussi en Touraine. Et c'est en Touraine, en fait, qu'on a travaillé avec quelqu'un pour associer ça avec la pomme.
C'est là que vous avez fait le mariage.
C'est ça qu'on a fait, voilà, exactement.
Donc
après un peu un parcours pour rencontrer différents producteurs et associer ça. Ouais.
Vous cherchez beaucoup les uns et les autres à sortir des lieux géographiques des diasporas. Vous cherchez à être distribué. D'ailleurs, ça se voit dans votre packaging. Vous avez une obsession quand même, c'est le haut de gamme, les uns et les autres.
Oui, tout à fait.
Tout à fait.
Pour vous aussi, Marie-Clarisse Bondia.
Exactement.
Parce que vous, le manioc, donc, vous le retravaillez. Alors, cette fameuse recette, le chikwangé, c'est vous le retravaillez, mais en petites portions.
En petites portions.
Donc, en fait, vendu plus cher au kilo. Hein.
C'est sûr. Enfin, plus cher, non, par rapport aux efforts. Parce qu'on est obligé, nous, ici, ce qui est l'avantage aussi, hein, de pouvoir. rentrer dans les normes.
Bien
en
sûr,
fait,
il y a des normes.
Il y a des normes, il y a l'hygiène. Moi, j'ai dû faire une formation à HACCP pour respecter tout ça, pour voir aussi. Parce que l'idée, il y a la diaspora, mais il y a aussi, on vit dans un monde aussi, il y a les autres. Donc, faire aussi les portions. Moi, j'ai deux formats, hein, 250 grammes et 150 grammes. 150 grammes, c'est pour les non-initiés. Donc, il correspond à un petit bout de féculent, voilà, que les gens vont manger facilement et qui me servent aussi à tartiner, ouais, à faire des bouchées.
Mais
en
quand
fait.
Vous cherchez absolument à être distribué pour vous, Nathalie Sherman, dans un grand magasin assez haut de gamme à Paris, pour ne pas le citer, dans les rayons épicerie fine, gourmet, comme on appelle ça, c'est parce que les Européens sont curieux des nouveaux produits ou bien parce que les diasporas ont plus d'argent pour acheter dans ces magasins-là? Parce que vous n'êtes pas très branché Château Rouge, là.
En fait, on est parti sur un truc vraiment osé, dire on veut faire du haut de gamme des produits africains. Donc, je ne veux pas me retrouver à Château Rouge. Je ne sais pas que je dénigre Château Rouge.
Non, non, on est bien
mais,
d'accord.
Quand on arrive là-bas, déjà moi, nouveau... quand je vends le pot de Safou, 9,90, ils trouvent que c'est trop cher. Donc, je ne veux pas aller me mettre là-bas. Et aujourd'hui, c'est vraiment une décision. Enfin, c'est voulu qu'on soit en épicerie fine.
Et puis, Château Rouge est saturé. Enfin, il y a, y a un type de clientèle. Pour ma part, en tout cas, les clients que j'ai, ce sont des clients qui veulent tester nos produits, mais qui trouvent qu'il n'y a pas d'offre qui correspond à leurs standards. Et ça, c'est une façon de répondre justement à ces standards-là. Notamment les normes. Il y en a qui veulent savoir la liste des ingrédients. Donc il faut mettre
vos clients de la diaspora.
Exactement. Sûr, ils veulent la liste d'ingrédients. Il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes d'allergie, donc ils veulent connaître.
Les clients sont devenus des enquiquineurs aujourd'hui, c'est ça.
Les clients héros.
Oui, parce qu'ils sont trop informés.
Ils ont eu, on va dire, on a eu des surprises sur l'alimentaire, donc du coup maintenant tout le monde commence à être méfiant sur l'alimentaire, donc demande à avoir un peu plus.
Et encore plus quand on dit il y a assez africain. Donc du coup il faut montrer patte blanche, il faut montrer qu'on respecte les normes d'hygiène, il faut montrer qu'on a une liste d'ingrédients. C'est important de mettre que c'est sans conservateur, que c'est fabriqué en France ou que les produits viennent vraiment d'Afrique ou que ça fait
avec
travailler.
Avec une filière particulière.
Exactement.
Vos feuilles d'hibiscus,
elles viennent du Burkina Faso.
Vous pouvez tout tracer kilomètre par kilomètre jusqu'à la
kilomètre
Touraine.
Kilomètre par kilomètre, exactement.
C'est ça. Oui.
Exactement.
Vous nous appelez les voisins et les voisines. Vous l'entendez probablement, l'agroalimentaire africain est en train de se transformer hors du continent ou aussi sur le continent. On va en discuter d'ailleurs avec un fabricant de chips tout à l'heure qui est à Libreville. Appelez-nous au 33 1 84 22 71 71 pour réagir. Que pensez-vous de ces évolutions ? Mariam, chez 7 milliards de voisins, on est en direct du lundi au vendredi sur RFI. Aujourd'hui, on parle cuisine. D'ailleurs, Nathalie Sherman avait commencé une très bonne action qui était de distribuer des tout petits verres. Je pense qu'il va y avoir une dégustation très bientôt de son super jus passion, gingembre. Ne vous arrêtez passion. Pas en si bon chemin, Nathalie. Continuez donc. Non, on veut goûter même en direct. On en discute bien sûr avec Chef Anto ou Marc Cissé, Marie-Clarisse Bondia, des entrepreneurs qui se lancent dans l'agroalimentaire après être arrivés d'autres univers, plutôt business, plutôt ingénierie. Et c'est pas si simple, vous visez à la fois des publics de diaspora, des publics européens. On accueille un entrepreneur qui est lui sur le continent africain, Cédric Bécalé à Libreville au Gabon. Bonjour Cédric.
Bonjour les voisins.
Eh bien, on est ravis de vous accueillir de nouveau chez 7 milliards de voisins parce que vous êtes passé en tant que jeune entrepreneur avec le coach Didier Akwété il y a quelques mois déjà. Vous fabriquez des chips de tubercules africaines. La gamme s'est enrichie, je crois, aujourd'hui.
Oui, nous avons commencé avec les chips de bananes plantain, vertes et mûres. Aujourd'hui, nous avons mis sur le marché donc, les chips de patates douces et de taro. Et nous allons continuer comme ça.
Le tarot, peut-être une petite explication sur le tarot, quand même.
Oui.
Ben c'est quoi le tarot?
Ah, le tarot, c'est un légume racine, un peu comme la patate douce, ou comme le manioc.
Oui.
Très consommé en Afrique et un peu au-delà aussi.
Avec un goût qui ressemble à quoi?
On n'est pas loin de la pomme de terre, il y a un tout petit peu de goût, quand on le touche, c'est la pomme de terre, moi je dis toujours c'est la pomme de terre avec des cheveux, parce que à l'état brut, il y a des petits filaments sur le tarot, mais on n'est pas loin de la pomme de terre en termes de goût, et c'est sans gluten. Mm.
Et donc, voilà, alors aujourd'hui ces chips donc, sont vendus au Gabon?
Oui.
Vous êtes aussi...
Elles sont vendues au Gabon.
Mmh. Oui, allez-y Cédric.
Oui, donc je disais qu'elles sont vendues au Gabon, mais quand même sollicitées un peu au-delà des frontières du Gabon. Ça s'accentue de plus en plus. Donc plus on a de visibilité, effectivement, plus la demande, elle se fait ressentir, et notamment en France surtout. Mmh.
Alors, c'est pas un hasard si vous avez démarré cette gamme de chips relativement haut de gamme par rapport aux chips que connaissent les consommateurs à Libreville, parce que d'abord, il y a des diasporas africaines, il y a des diasporas tout court, des gens qui viennent là pour travailler, quel que soit leur continent d'origine. Donc, il y a du pouvoir d'achat. Est-ce que vous aimeriez... arriver à trouver un marché en dehors du Gabon?
Ah oui, complètement. Parce que le Gabon, je vous rappelle que ça peine plus d'un million d'habitants. Donc c'est un marché qui reste quand même assez petit. Et comme je vous l'avais dit lors de ma précédente intervention, ce projet-là, il est né d'abord en France. Parce que j'y réside, en fait, en réalité. Et le Gabon, en fait, n'était à la base qu'un laboratoire pour pouvoir développer le projet avec des moyens... de petits moyens, en fait, on va dire. Donc aujourd'hui, le vrai marché pour moi, il se situe en Europe, puisqu'il y a le pouvoir d'achat. Il y a aussi cette connaissance donc, en matière de consommation donc, de ces produits qui viennent d'ailleurs. Il y a cette curiosité, il y a cette exigence-là qu'on a mis justement sur les emballages, sur le procédé de fabrication et tout le reste, qui fait que... En principe, c'était d'abord destiné en fait à ces marchés-là.
C'est ça. Mais alors justement, puisqu'on parle des problèmes de procédés de fabrication, vous nous le disiez dans le studio, vous avez les uns et les autres fait des formations pour être aux normes, puisque la réglementation en Europe est très stricte. En Afrique aussi, d'ailleurs, c'est en train énormément de se professionnaliser. Vous, qu'est-ce que vous avez comme type de technique de production, de conservation? Qu'est-ce qui bouge dans ce domaine-là? Et quels sont les problèmes que vous avez, Cédric Bécalé, pour produire des chips? Ou c'est pas, on n'est pas sur un domaine de produits laitiers, hein, il y a les risques phytosanitaires ne sont pas les mêmes.
Oui, effectivement, on a moins de problèmes que les autres. Je vais vous dire que le seul problème qu'on a et qui se font ressentir sur le prix de vente de nos produits, c'est déjà le fait que les emballages qu'on utilise ne sont pas fabriqués en Afrique. Contrairement à si le produit il était aujourd'hui réalisé à Paris, je sais qu'il y a des fournisseurs d'emballage sur Paris, donc il y aurait les coûts de transport de ces emballages-là en moins. Et ensuite, nous, on n'utilise que de l'huile de tournesol essentiellement. Donc l'huile de tournesol n'est pas fabriquée au Gabon non plus, et un peu moins en Afrique, mais dans le Maghreb. Et toujours est-il que
et ça revient quand même cher, pas, donc on est pourquoi vous n'utilisez pas d'huile de palme ou d'huile d'arachide?
Alors, on n'utilise pas d'huile de palme. Voilà, on n'utilise pas l'huile de palme parce que il y a pas mal de sensibilité justement par rapport à l'huile de palme et ça fait beaucoup de débats. Donc on a fait le choix comme ça d'utiliser une huile qui est neutre, mais aussi qui n'a pas d'incidence sur le goût et sur le parfum de la chips lorsqu'on ouvre le paquet.
D'accord. Et par exemple, Anto me disait que vous avez des problèmes de calibrage pour quand vous faites vos chips de banane.
Oui, effectivement. Donc ici, on a un marché qui est en train de se développer. C'est-à-dire que, je vais prendre un exemple. La banane plantain ici au Gabon, elle est vendue au tas.
Oui.
En France, par exemple, quand vous l'achetez via Rungis, vous l'achetez, elle est calibrée. C'est au kilo.
Oui. Et donc,
c'est-à-dire que
vous pouvez demander un certain type de calibre, c'est ça?
Exactement. Et vous pouvez demander un stade de maturité qui sera toujours le même en fonction de votre cahier, votre cahier de commande.
Et donc, vous, comment vous faites alors du coup?
Ça varie. Ben, ici, on est obligé de s'adapter. C'est-à-dire qu'on essaie d'avoir le maximum de fournisseurs possible. Et on essaie de jongler comme ça, de trouver comment...
C'est-à-dire que vous faites le tri vous-même pour avoir le calibrage qu'il vous faut, c'est ça en fait?
Exactement.
Vous transformez en grossiste de Rungis. Oui. D'accord.
Exactement.
Ouais, c'est pas simple. Hein.
Et même mieux, des fois on est obligé de trouver des techniques pour faire mûrir la banane, c'est-à-dire le stade de maturité précis qu'on a besoin pour la chips de banane.
Attendez, à Libreville, quand même, faire mûrir des bananes, c'est parce qu'il y a plus compliqué, quand même.
Le soleil est un peu d'emballage plastique autour.
Ah oui, d'accord, pour que ça mûrisse plus vite. Ouais. Marie-Clarisse, Bandia. Vous souhaitez intervenir?
Je voulais intervenir pour dire que ce problème de calibrage par rapport à la forme, en fait, il faut partir mais vraiment de l'agriculture. C'est-à-dire le problème qu'on a aujourd'hui en Afrique, il faut qu'on crée vraiment des chaînes de valeur. Des chaînes de valeur pour pouvoir dire qu'on plante tel produit pour, par exemple, faire des chips, ce que les autres ont fait, par exemple, pour le manioc et tout. Quand je parle, par exemple, de mon produit, dans mon pays, par exemple, la chaîne de valeur s'arrête à récolter du manioc, le transformer en foufou, qui est le farine de manioc, et la chikwang. Alors que derrière ce manioc, ce produit-là, on pourrait créer plusieurs chaînes. Mais pour ça, il faut commencer à industrialiser, Dieu merci, hein, c'est en marche, mais il y a beaucoup de travail à faire. Donc pour avoir la bonne calibre pour faire les chips, eh ben, il faut créer mais vraiment des chaînes de valeur.
Mais est-ce que le fait de calibrer ne va pas encourager le gaspillage alimentaire?
Non, en fait, aussi. Si c'est fait comme ici, par exemple, en Europe, par exemple, sur les pommes. Aujourd'hui, sur les pommes, tout ce qui est hors calibre.
Qu'est-ce que ça devient?
Ben, en fait, il y a la transformation derrière.
Tout à fait.
C'est pour ça qu'en fait, s'il y a des usines de.
D'où l'intérêt de toute une chaîne, c'est-à-dire que dans ces cas-là, ce qui n'est pas bon pour le bon calibre, pour faire autre chose. Vous nous appelez, on parle de cette industrie agroalimentaire en pleine transformation, en pleine révolution. D'abord pour les marchés de la diaspora en Europe, mais également sur le marché africain, en témoigne l'initiative de Cédric Bécalé à Libreville. Et d'ailleurs, je précise qu'au Gabon, il y a d'autres PME qui se montent comme ça sur des produits transformés. Ça peut être des confitures qui sont vendues d'ailleurs à un tarif assez élevé, mais qui témoignent tout de même de ces nouveaux marchés qui émergent également sur le continent africain. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71. On accueille un auditeur, Josué, qui nous appelle de région parisienne. Bonjour Josué.
Oui, bonjour madame.
Vous êtes créateur, vous faites du chikwang également, la même chose que Marie-Clarisse Bandia. Alors je ne sais pas si vous souhaitez réagir, parce que Marie-Clarisse Bandia n'a pas épargné les importateurs de manioc tout à l'heure à l'antenne en disant que, je ne me trompe pas hein, Marie-Clarisse, vous avez dit, je suis arrivée sur ce marché parce que je ne trouvais pas le manioc que je voulais en Europe, il avait une mauvaise odeur, etc.
En tout cas, la plupart du temps.
Oui, c'est ça. Alors Josué, vous voulez réagir ou participer à la discussion?
Bon, moi aussi, je me suis retrouvé sur le marché de produits exotiques africains. Et j'étais aussi motivé par le désir d'améliorer la qualité de produits africains, surtout les produits de grande consommation.
Oui.
Et j'ai beaucoup travaillé essentiellement sur les feuilles de manioc. Qu'on appelle sakasaka.
Oui. Qui sont des feuilles pilées et ça oui, devient du sac à sac.
Haché.
Haché, pardon. Il y a des bas. Pilé ou haché, Anto?
Normalement. Quand c'est haché, c'est pas ça. Normalement, c'est pilé, mais bon.
Allez-y, Josué, ne vous laissez pas.
J'ai travaillé sur le feuille de manioc et en deuxième lieu, j'ai travaillé sur la chikwang, c'est-à-dire la pâte de manioc transformée.
Cuite à la vapeur ou à l'eau bouillante dans des feuilles de bananier.
Bon, on appelle les feuilles de bananier. Mmh. En réalité, ce feuille d'emballage-là, ce sont des feuilles spéciales pour emballer tous les produits à base de manioc, des tubercules de manioc.
Ce n'est pas des feuilles de bananier.
Ce sont les feuilles spéciales qui sont cueillies dans la forêt.
Dans la forêt,
oui. D'accord.
Voilà, parce qu'il ne faut pas s'aimer à confusion. Si vous regardez les feuilles de bananier, elles ne sont pas pareilles avec ces feuilles-là. Donc, c'est une précision que j'apporte.
Très bien. Bon, donc, où voulez-vous en venir?
Bon, ce que je voulais dire, que parallèlement à ce que la dame a dit, c'est vrai que de plus en plus, il y a amélioration de la production et de la qualité de produits d'origine africaine. Et moi, j'ai beaucoup travaillé dans ce domaine-là. Je suis le premier à avoir mis au point le procédé de conservation sous vide de la chikwang.
D'accord. Et donc, ensuite, qui peut se conserver, qui peut être...
Ça se conserve aujourd'hui plusieurs mois. Avant, la chikwang, dans l'état habituel, naturel, ça se conserve une semaine, deux semaines maximum.
Ouais.
Et ça moisit.
Merci Josué de nous avoir appelé. C'est intéressant de discuter de ces procédés de transformation parce qu'aujourd'hui, c'est quand même le nerf de la guerre. C'est vraiment la condition pour réussir à commercialiser vos produits, quels que soient vos clients d'ailleurs, qui sont devenus exigeants partout dans le monde.
Oui. Parce qu'aujourd'hui, la contrainte qu'il faut, c'est de réaliser en très grande quantité et garder le même goût, la même colorimétrie, le même taux d'acidité,
exactement,
le même taux de sucre. Et ça, ça nécessite de travailler en amont sur l'industrialisation du produit.
Exactement.
Et donc, nous,
mais là, j'entends quand même déjà les voisins qui se disent « Ah, mais ça, tout ça, ça va perdre son âme. »
C'est
va...
ça.
Non ?
Si, si. Bah, pour l'instant...
Pardon. Non, mais comment on dit, la question c'est comment allier tradition et modernité.
C'est ça.
C'est comment faire pour faire avancer le produit sans vendre son âme.
On peut être habillé en boubou toute la journée avec un iPhone dans la poche, c'est pas incompatible et il n'y a pas de problème avec ça.
Non, mais la question se pose pour toutes les cuisines du monde,
De toute façon, aujourd'hui, moi j'ai une réponse à ça. Aujourd'hui, je sais que les Sénégalais, quand ils font le yassa, ils utilisent en condiment la moutarde de Dijon. Depuis très longtemps, ils ont...
Pour faire du yassa, on met de la moutarde de Dijon.
Oui, parce que c'est plus simple aujourd'hui, parce qu'avant, sinon, il fallait faire le confit d'oignon, c'était compliqué et tout. Et donc maintenant, pour aller plus vite...
Il n'y a pas d'oignon dans la moutarde de Dijon.
Dans
le yassa.
Oui, d'accord. Qu'on utilise la moutarde pour remplacer le confit d'oignon.
Non, pour faire le condiment, en fait, pour ajouter, pour faire la marinade, en fait, avec les oignons. Et donc, depuis très longtemps, déjà... On s'est adapté parce qu'il faut aller plus vite, on n'a pas le temps. Donc la moutarde du genre remplace et on va plus vite. Et donc, les puristes pourraient dire déjà, il y avait eu un problème, mais on s'adapte. Voilà.
Il y a un autre problème aussi, alors il y a les normes sanitaires, mais aujourd'hui, vous vous fixez tous aussi des objectifs d'être éco-responsables, parce que certains produits sont très durs à travailler, à transformer,
chiffon,
voilà,
ouais.
Exactement, le manioc, on va en discuter dans quelques secondes, et bien sûr, quant à vous les voisins et les voisines, dites-nous ce qu'il y a dans votre assiette aujourd'hui, si vous observez qu'il y a de plus en plus de produits africains, mais des produits africains qui l'ont en conservation, qui sont transformés, et qu'il vous suffit d'ouvrir un pot finalement pour avoir un plat, et bien évidemment vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71.
Your mouth not mon hakati mot se ka ketchena ni te lati mami ikunde na cholu kene piki lati ite meri doni jenye pi asini ifani bayi kudu kwa hundini nula ite nyani sabla tua hunte kwa bi nebo feye bi drogu ni gromi drole ke kiteri hula halitara fengini nima te mumuni nibe ke wali tingi ikrashi bingo gonga Wana iko tu debiti wana ya fie bade ya chukunga chenu kwa imani ima honyinga sege ngoi here kusukube daraka masukube fora masmuni moko kajiti mogoti balika komina kanato kachinyechesa mogoti balika komina kanato kachinyechesa mogota balanga komina antafo kachinyechesa
utegeta tuma fenye tresa fefende ye niji blapo ngache imbalo bala ala ninyengu yafe indestra fembela rapu kwa nikote kwarite kukefyo Ben fait ta pendo, il m'a gré embouché là, mon gars sur du marché, il m'a fait collation, lui cassé Wanama, à ta donne vie, la foudre ma pour un gros la rampe pour tes travaux.
Le rap est devenu comme un chemin qui nous unit, en crachant des fleurs tout ce qui n'aime pas nous unir. Slogan de conscientisation pour les jeunes, qui informe les vieux à ce qu'ils comprennent les jeunes. C'est forcé à celui qui n'est pas sur le bon chemin, sans écouter les gens dans son clan. Il vaut mieux qu'il change vite, avant que ça ne tourne autrement mon cas. La sincérité, la bonté, hip hop pour moi c'est la vérité. Le rêve
des J'ai 7 milliards de voisins, on est tous ensemble et on est presque autour de la marmite. Non, pas tout à fait, puisqu'on parle aujourd'hui de ces produits africains en pleine révolution qui se transforment. Qui reste consommable avec des durées de consommation pas tout à fait illimitées, mais c'est le cas pour les jus, bien sûr, les pâtes à tartiner, mais avec du safou, ça on connaissait pas, ou les jus de bissap totalement métissés avec du jus de pomme, les chips également avec Cédric Bécalé uniquement à partir de racines, ou bien sûr les plus classiques, bananes plantain. Et vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. On va donner la parole à Priscille, m'attendait juste avant, parce que pendant la chanson, le débat continuait, mais alors, bon, ambiance, sur le problème de la saisonnalité, puisqu'on était beaucoup sur le problème des logiques industrielles de l'agroalimentaire, oui, qui arrive maintenant sur le continent africain, ou chez vous, en tant qu'entrepreneur de la diaspora, sur le problème du safou.
Oui, Nathalie, c'est ce que j'expliquais justement. Je demandais à Nathalie comment elle faisait par rapport à la saisonnalité, parce qu'il y a des moments où moi, quand je vais au Gabon et que je veux du safou, enfin la tanga, et on me dit
donc
c'est pas la
saison. Donc ce produit, on le redit, qui ressemble un peu à une prune, mais qui est utilisé plutôt comme un avocat et qui.
Exactement.
Voilà, c'est et le safou, c'est le guacamole africain.
Il y a des périodes, exactement. Il y a des périodes où il y en a et des périodes où il n'y en a pas, parce que nous, on est encore vraiment dans la saisonnalité des produits. Il y a des moments dans l'année
donc,
où on peut pas trouver.
Compliqué quand on veut produire toute l'année.
Exactement. Tout donc, je demandais à Nathalie comment elle faisait pour produire justement sa crème toute l'année.
En fait, à savoir, bon, je parlais du Congo que je connais le mieux. Au Congo, la saisonnalité, en fait, la prune, enfin, le safou, nous on l'appelle le safou, c'est 3 mois. Donc, c'est à partir.
Au
Congo-Brazzaville. Donc, c'est à partir de décembre, janvier, février, c'est fini.
Et donc, comment vous faites après?
Donc, mais je travaille en fait. Ben moi, comme je dis, je n'ai pas fait épicerie fine congolaise. Je fais l'épicerie fine africaine. C'est pouvoir toucher dans chaque pays. Puisqu'en Afrique, on a quasiment les mêmes fruits, les mêmes légumes. C'est juste la façon de préparer qui diffère. Donc, je travaille aussi avec le Cameroun. Donc, eux, ils ont, ils ont cette prune-là. Ça pousse deux fois l'année.
Pour des raisons climatiques ou pour des raisons.
Oui, ah bah oui, mais le Cameroun, c'est l'Afrique en miniature, en fait. Ils ont vraiment des saisons variées par rapport aux autres pays. Donc, c'est tout un pays, le Cameroun. Enfin, c'est tout,
ce safou, il pousse de manière sauvage ou pas?
Oui, c'est sauvage. Donc, pour aujourd'hui, on peut dire que, en fait, je ne vais pas parler pour tous les produits africains, mais en général, les produits africains, ce sont des produits naturels. Sans vraiment, sans engrais, sans additifs, sans tout ce qu'il y a autour.
Et vous achetez à des producteurs qui ont en général d'ailleurs de petites parcelles, multiplier.
Voilà.
Enfin, vous achetez à revendeurs, hein, mais qui s'approvisionnent auprès d'agriculteurs
ça se
de petites parcelles.
Chez moi au Congo, en fait, quand j'achète, c'est par arbre. Donc tout dépend.
Ah oui,
moi,
d'accord.
J'achète mon arbre,
D'accord, vous réservez vos arbres.
Je réserve. Donc, ça donne, c'est bien, je récolte.
Et sinon, vous avez perdu.
Ça ne donne pas, bah, c'est le jeu.
D'accord. Donc, Priscille est en ligne avec nous. Elle nous appelle de région parisienne. Bonjour, Priscille.
Bonjour.
Vous êtes en direct chez 7 milliards de voisins.
Merci de m'accueillir.
On vous
à
écoute.
Cette belle table riche en saveurs.
Oui, merci. Le problème, c'est que ça donne très faim. Mais bon, ça, on en parlera après. Allez-y, Priscille.
Bah, écoutez, je voulais déjà vous féliciter, hein, tous, tels que vous êtes là présents, tous les entrepreneurs et vous qui réalisez cette émission, pour vous dire que, évidemment, le patrimoine africain est très riche, hein, notamment en aliments à découvrir. Moi-même, j'ai fait le pari de me lancer dans la transformation de la racine de manioc en kwanga et en d'autres dérivés. Et c'est vrai que l'accueil a été mitigé au départ. Aujourd'hui, il y a une quasi-unanimité que ces produits avaient leur place dans les tables occidentales.
Et vous-même, comment vous êtes tombée dans la marmite? Parce que là, les histoires de nos entrepreneurs sont assez incroyables autour de la table dans le studio.
Vraiment, je suis tombée dans la marmite assez tôt. Il faut dire que je suis née à Brazzaville, j'y ai grandi. Mais j'aimais bien aller dans le village natal de mon père, quasiment toutes les vacances. Et là, j'ai vu ma grand-mère faire. Seulement, j'ai été poussée, comme tous les parents bien sûr, hein, j'ai été poussée à faire des études. Donc, j'ai fait des études de droit et de ressources humaines, ce qui m'a emmenée en France. J'y ai continué mes études et jusqu'à travailler comme RH. Et
d'accord.
Là, ici, au cours d'un mariage, ma mère n'a pas trouvé du bon manioc. Elle s'est dit, bah, pourquoi pas acheter du tubercule et en faire. Donc, elle en a fait. Et là, ça fait tilt.
Ouais. Et donc, vous avez lâché les ressources humaines pour devenir entrepreneuse dans l'agroalimentaire africain.
C'est ça. Le projet a été assez osé à porter parce que, on parlait des contraintes des normes sanitaires et surtout les financements qui ne sont pas évidents à trouver dans ce projet.
Alors, mais ceci dit, c'est étonnant parce que vous êtes là, vous visez tous plutôt les diasporas africaines qui certes sont appelées à grossir, mais par rapport au continent d'où vous venez, c'est sans comparaison. Cédric Bécalé, vous avez, excusez-moi, mais vous avez vraiment un boulevard devant vous. Même si vous êtes là, à l'heure actuelle, à Libreville, au Gabon, un pays qui n'est pas très peuplé, vous envisagez déjà de vous diversifier dans la sous-région, voire plus loin sur le continent africain. Comment vous comprenez les stratégies des entrepreneurs de la diaspora pour la diaspora?
Écoutez, chacun a un peu sa stratégie et chacun essaie effectivement de saisir en fait les opportunités donc liées à ce marché-là. Il faut savoir, et moi je voulais surtout rebondir sur ça, on est quand même une nouvelle génération qui a beaucoup de rêves, mais qui a surtout beaucoup de défis à relever. Déjà, avoir une place sur le continent, c'est-à-dire en Europe, en France et ailleurs, mais surtout redonner aussi à l'Afrique, en fait, redorer en fait cette noblesse à l'Afrique. On a ce devoir-là, et moi ici au Gabon, on me le dit tous les jours, qu'on a ce devoir, une fois parti, de ne pas oublier d'où on vient, et de participer justement à la valorisation d'abord de notre culture alimentaire, mais aussi participer à développer nos pays. Donc, que ce soit sur le continent, que ce soit en France, en Belgique ou ailleurs, tous, en fait, on a le même combat et tous, on essaie de réaliser nos rêves et de montrer qu'en fait, les diasporas, elles sont capables de réaliser plein de choses, plein de bonnes choses, mais aussi participer à la valorisation de nos cultures.
Alors justement, je posais la question au début de l'émission et je vous la pose aux uns et aux autres, où que vous soyez d'ailleurs entrepreneur en France ou en Afrique, mais est-ce que vous pouvez, avec ce nouveau type d'agroalimentaire africain, créer des emplois réellement sur le continent africain?
Bien sûr. Oui, bien sûr. Créer des emplois, d'ailleurs, c'est l'objectif. Ce qui me concerne, Joe Avrels, en fait, c'est vraiment avoir notre propre coopérative, peu importe le pays où on nous ouvre la porte, et puis créer vraiment des emplois pour les mamans. Je veux surtout travailler avec les mamans africaines.
Qui ramassent, alors souvent, pour le SAFU. D'ailleurs, voilà. Question de Maryse qui vient de nous écrire à Libreville, est-ce que le SAFU, c'est la même chose que la Tanga?
Oui, c'est la même chose.
Hein, c'est bien ça. Voilà. Soyez rassurés, Maryse. Donc, c'est, même si ce sont des arbres sauvages, il y a du ramassage, il y a de grosses opérations de récolte.
Tout à fait, voilà, oui.
Il faut beaucoup de main-d'œuvre.
Il faut beaucoup de main-d'œuvre.
Un travail qui est assez harassant aussi, il faut bien le dire.
Complètement, oui, avec les chaleurs d'Afrique.
Marie-Clarisse Bondia, je sais que vous, c'est quelque chose sur lequel vous avez
travaillé. Et voilà, c'est vraiment un challenge pour moi, parce qu'il faut savoir que le manioc, le travail de manioc en Afrique est fait essentiellement par les femmes. Et c'est un travail qui est encore très manuel et très dur. Et moi, en faisant ce projet-là, mon objectif, c'était vraiment de l'industrialiser, de ne pas dénaturer le produit, mais d'apporter en tout cas des éléments pour pouvoir faciliter le travail de la femme. Aujourd'hui, par exemple, je travaille avec les importateurs, eux qui travaillent avec les femmes au Ghana. Pourquoi le Ghana? Parce que le Ghana est sur la deuxième marche en termes de manioc en Afrique. Vous savez, le Nigeria, le Ghana et la Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, c'est le Ghana. Mais demain, mon souci, par exemple, c'est de travailler avec les femmes de chez moi. Leur donner aussi des bonnes cultures, des bonnes pratiques.
Chez vous, au Congo-Brazza.
Au Congo-Brazza. C'est-à-dire, les choses ont évolué. Il y a beaucoup de recherches qui ont été faites sur le manioc. Et il faut quand même savoir qu'il y a 300 millions de personnes dans le monde qui consomment le manioc. Mmh. Contrairement aux idées reçues, le manioc ne vient pas d'Afrique. Ça a été introduit en Afrique par les Portugais. Ça vient du Brésil. Mais... Les Africains sont les premiers à plus les consommer. Vous voyez?
Sur les emplois éco-responsables, comme on dit, les emplois responsables aujourd'hui, ça on a bien compris vos préoccupations, parce que vous appartenez à la nouvelle génération. Oui. Mais sur le fait de créer des emplois, Oumar Cissé. Ouais.
Alors, moi, je pars du principe qu'un entrepreneur, il a un rôle sociétal, en fait. Il doit, par son entreprise, en fait, avoir un impact sur la société, soit sur. Et la société, c'est au sens global, les hommes, l'environnement.
Mais vous vous projetez sur quelle société, vous, Oumar? En France, avec les
Alors, moi,
les vergers à pommes
aujourd'hui,
ou ceux qui cultivent les biscuits en Afrique.
Aujourd'hui, mon point de vue, c'est de dire, je veux proposer aux consommateurs européens les produits africains, mais les produits africains adaptés à leur mode de consommation, d'où les formats qu'on fait qui correspondent plus au nomadisme, voilà, au snacking. Alors, sur l'emploi, en fait, aujourd'hui, nous, on travaille avec des coopératives et nous, le but aujourd'hui, c'est donc, on structure la coopérative, on l'organise et ça permet, en fait, à la coopérative, donc nous, en fonction du marché et des évolutions, d'augmenter les emplois sur place.
Toutes ces discussions qu'on vient d'avoir, là, évidemment, on va les retrouver au festival We Eat Africa,
exactement,
qui va se dérouler à Paris le 7 juillet. Il y aura beaucoup de dégustations, ça sera
exactement
très festif.
Oui. Mais vous aurez déjà les différentes marques aussi qui sont représentées ici, notamment Panamaco, Joey Avrel et des Chikwanga qu'on pourra déguster. Ceux qui sont en région parisienne, venez nombreux.
Et bien sûr, donc, partager les expériences et les difficultés, d'ailleurs.
Exactement, oui.
Merci à vous tous. Chef Anto, vous êtes la co-organisatrice du salon We Eat Africa qui va se dérouler le 7 juillet prochain à Paris. Où exactement, on va le redire?
Ce sera à l'Espace Le Carré, qui est à la limite du Paris 16e, Boulogne-Billancourt.
Voilà, quand je disais que vous souhaitez maintenant vous positionner sur de nouveaux lieux, de nouveaux espaces géographiques et distribuer également dans les grands magasins haut de gamme, je ne m'étais pas trop merci à vous tous, Marie-Clarisse Bondia, Oumar Cissé, Nathalie Sherman, Cédric Bécalé. Merci à vous aussi d'avoir été en ligne à Libreville et on va tous vous retrouver pour ce festival que nous suivons attentivement chez 7 milliards de voisins. Merci aussi à toute l'équipe. Demain, ça sera le rendez-vous des tchatcheuses, des femmes journalistes pour commenter l'actualité de leur choix.
Merci à vous.